7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des millennials aux États-Unis. Ce sont de jeunes adultes de moins de 35 ans. Ils sont nés entre les années 80 et 2000. Ils représentent aujourd'hui la plus large tranche d'âge dans l'Amérique d'aujourd'hui. Des jeunes qui n'ont jamais été aussi diplômés dans toute l'histoire du pays. Ils sont aussi plus métissés, souvent bilingues, plus ouverts sur le monde, plus pauvres aussi, malgré le plein emploi. Ils ont connu la déflagration de la crise de 2008. On va en discuter avec notre invité. Bonjour Christophe de Roubaix.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le journal L'Humanité, souvent en reportage depuis plusieurs années de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous publiez Millennials, la génération qui secoue l'Amérique. C'est une enquête passionnante, très documentée sur ces jeunes, plus progressistes aussi. Vous nous dites qu'ils attendent plus d'État, plus d'impôts pour les riches, plus de protection de la planète. Aujourd'hui, ils sont l'Amérique anti-Trump par excellence. Les divisions de la société américaine qui symbolise les divisions de... qui symbolise, oui, le pays tout entier aujourd'hui, mais est-ce que c'est une génération si homogène que cela? On aura aussi le point de vue d'un expert en habitudes de consommation, David Allison. Et puis, on se posera aussi la question des jeunesses en Afrique, ces jeunesses qui sont ultra majoritaires démographiquement et si peu écoutées sur le continent africain, nous dira Sobel Ngom de l'ONG Social Change Factory. Pour participer à l'émission, comme tous les jours, les voisins et les voisines, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp. Et bien sûr, vous nous appelez si vous avez moins de 35 ans et si vous vous sentez en vrai décalage par rapport à vos aînés.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins. On est toujours à l'écoute.
Christophe de Roubaix, expliquez-nous déjà comment est né ce concept de millennials aux États-Unis.
Oui, alors il est, vous savez, les Américains aiment bien borner les générations, donc on connaît tous.
Question de marketing aussi.
Oui, bien sûr. Donc on connaît tous les baby boomers. Ensuite, il y a eu la génération Z qui est un peu passée, génération X, qui est un peu passée au travers. Et puis arrivent les millennials. Donc le concept a été forgé par deux politologues qui ont baptisé ça les millennials parce que les premiers millennials, donc ceux qui sont nés entre 80 et 82, ont eu 18 ans au moment du millénaire et les derniers donc sont nés en 96 et depuis 97 c'est les post-millennials dont on n'a pas encore le nom de baptême officiel.
C'est ça. Alors les millennials c'est vraiment les forces vives du pays, c'est 35% de la population active, 75 millions d'Américains sur les 327, c'est vraiment aujourd'hui un poids lourd dans la société américaine.
Oui, complètement. Voilà, parce que quand on parle de jeunesse américaine, alors les premiers millennials maintenant ont 37-38 ans, donc on est encore sûrement jeune à 37-38 ans, même plus tard, mais on n'est plus tout à fait dans la jeunesse 20-25 ans. Et donc, en effet, ils représentent maintenant, donc c'est la principale génération en termes d'habitants, parce qu'il y a 75 millions des Américains sont des millennials, donc plus nombreux que les baby boomers. Ils tendent à devenir aussi la fraction la plus importante de l'électorat, et ils sont aussi aujourd'hui, depuis un an à peu près, la frange la plus importante du salariat. Parler des millennials, c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin. C'est pas faire un truc de genre ou une étude de cas
non,
spécifique, c'est vraiment parler du pays.
Tout le monde s'inquiète, s'interroge, se préoccupe de savoir qui sont ces millennials. Oui. Vous n'êtes pas le premier. Alors, il y a des chiffres qui sont incontestables. Avant de se demander si c'est une génération si homogène ou pas, si on peut tous les mettre dans cette catégorie juste par simple question d'âge, ils sont très diplômés.
C'est la génération la plus diplômée de l'histoire des États-Unis. Plus de la moitié des millennials ont suivi des études universitaires ou un bac plus 5. De mémoire, 35%, un tiers, plus d'un tiers des millennials sont titulaires d'un bac plus 5.
Ça veut dire et plus de la moitié sont passés par l'université.
Et plus de la moitié sont passés par l'université. Et c'est pas tout à fait la première génération au sein de laquelle les femmes sont plus diplômées que les hommes, puisque c'était déjà le cas de la génération d'avant. Mais c'est, je crois qu'il y a un différentiel de 6 ou 7 points. C'est-à-dire les femmes sont ultra diplômées, beaucoup plus que les hommes et beaucoup plus que dans toute l'histoire du pays.
Ouais. Alors c'est pas spécifique d'ailleurs à l'histoire américaine, hein, le fait qu'il y ait plus de filles diplômées, plus de filles dans les universités aussi. Ces millénials, c'est moins de 35 ans, ils sont plus métissés que leurs parents.
Oui. Alors, la question de la démographie, de l'appartenance avec beaucoup de guillemets ethnique ou raciale, comme on le dit aux États-Unis, évidemment toujours une sorte de bombe à retardement. Hein, on connaît l'histoire américaine. Donc, en effet, ils sont plus métissés. Parce que simplement depuis 1965, les lois ont changé aux États-Unis. Donc l'immigration est revenue après que les robinets eurent été coupés à partir de 1923-24. Donc il y a une immigration latino. Alors on parle beaucoup d'immigration latino dans le débat politique. Aujourd'hui, la principale immigration, c'est l'immigration asiatique. Et pour les 20-30 ans à venir, les prévisions portent plutôt là-dessus. Et puis, donc, il y a une diversité démographique absolument évidente. Et puis, il y a aussi beaucoup plus d'interactions entre ces communautés, un mot que je n'aime pas trop et qui s'applique mal en fait.
On veut dire qu'il y a plus de couples mixtes, c'est ça ?
Oui, il y a plus de couples mixtes. Par exemple, il y a plus de couples mixtes. Et alors, il y a un petit problème quand même, c'est que quand un couple mixte blanc latino par exemple ont un enfant, systématiquement les projections le mettent dans la catégorie minorité. Or, cet enfant, il a de fortes chances de vivre dans un quartier blanc et d'aller à l'école avec des blancs et aussi d'être dépositaire de l'héritage culturel, par exemple italo-américain. Donc, s'il n'en fait pas tout à fait minorité. Donc, les projections sur le fait que les blancs vont devenir minoritaires aux États-Unis sont à prendre avec beaucoup de pincettes. En tout cas, il y a un fait majeur, c'est la diversification démographique.
Il y a beaucoup de jeunes dans cette génération qui continuent de parler la langue de leurs parents, à savoir l'espagnol ou ça peut être une langue du continent asiatique.
Oui. Alors la principale question évidemment est celle de l'espagnol, puisque c'est les latinos représentent 18% de la population des États-Unis. Et puis contrairement aux autres vagues d'immigration avant, où on leur a expliqué, ça s'est surtout posé pour les Allemands, puis pour les Italiens, on leur a expliqué que pour s'intégrer, il ne fallait plus parler la langue. C'était un peu le cas aussi en France d'ailleurs, de ce point de vue-là, beaucoup de points communs entre les États-Unis et l'Europe. Aujourd'hui, les immigrés latinos, enfin qui sont des citoyens américains dans une immense majorité, ont décidé de ne pas se priver de la langue de leurs parents et de parler les deux.
C'est donc ça, c'est en développement, c'est le bilinguisme. C'est considéré dans cette génération comme une richesse, ce bilinguisme.
Oui, oui.
Mais c'est intéressant parce qu'on a longtemps dit que les Américains, ils parlaient qu'anglais. Hein. Dans cette génération-là, c'est plus très vrai. Ils sont pas que anglophones.
Ils sont et même maintenant des blancs commencent à parler espagnol aussi parce que c'est devenu une langue. Vous arrivez à l'aéroport de Miami, tout est écrit en anglais et en espagnol, et c'est devenu l'anglais n'a jamais été une langue officielle aux États-Unis, pas de langue officielle.
C'est une génération qui est plus pauvre que la précédente. Alors, vous avez refait les calculs. En 2008, cette génération des millennials, c'était des adolescents ou de jeunes adultes, ils avaient entre 12 et 27 ans. Quand vous vivez la crise des subprimes et que vous avez entre 12 et 27 ans, forcément, ça laisse des traces. Ça veut dire qu'ils ont vu soit leurs parents, soit des gens de leur famille, soit dans leur milieu, soit dans leur ville, des maisons à vendre partout, des gens expulsés, qui ne peuvent plus rembourser leur dette de logement. C'est une génération qui est vraiment marquée par cette crise.
Oui, c'est la première génération qui vivra, dans l'histoire des États-Unis, qui vivra moins bien que la génération précédente. Et elle a conscience de ça. Et évidemment, la grande déflagration, vous le disiez, c'est le krach de 2008. C'est-à-dire que ceux qui étaient salariés, étaient des jeunes salariés, donc ont souvent été les premiers licenciés. Donc pour beaucoup, sont revenus chez leurs parents. On les a appelés à un moment la génération boomerang, retour chez papa et maman. Et puis ceux qui étaient dans le cadre de leurs études, ont été impactés un peu plus tard, on l'a pas vu tout de suite, on a beaucoup parlé des saisies immobilières, mais l'impact différé, ça a été des salaires qui étaient bien moins importants que ce qu'on leur avait promis. Or, eux avaient engagé des frais d'inscription dans les facs qui étaient absolument colossaux et qui constituent une dette en moyenne par étudiant américain de 37 000 $. Et sauf que les salaires étant pas à la hauteur aujourd'hui, c'est un fardeau qui est insupportable pour de très très nombreux étudiants étudiants maintenant salariés américains.
Alors justement, vous parliez de cet endettement américain, des étudiants américains. La dette, c'est 1500 milliards de dollars, 37 000 dollars en moyenne par étudiant, ex-étudiant, hein, aujourd'hui dans la vie active. C'est quand même un vrai fardeau. Je vous propose de réécouter un document de nos archives d'émission qui était diffusé en juillet dernier. Marie-Pierre Frigon, qui est une américano-canadienne, vit à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Elle était diplômée en 2017 de l'Académie des Arts de l'Université de San Francisco, où elle a fait des études de photo. Elle a emprunté auprès de plusieurs banques privées avec ses parents comme garant, et elle revient sur le montant de sa dette et les conséquences sur sa vie actuelle.
À ce moment, je dois à peu près 170 000. Je paye à peu près 1400 dollars américains par mois.
Sur un salaire de?
À peu près 3000 dollars par mois.
Donc,
américain.
Vous remboursez pratiquement la moitié de votre salaire. Vous travaillez comme community manager dans une entreprise. Et vous allez rembourser comme ça pendant combien d'années, Marie-Pierre?
À peu près 20 ans, si tout va bien, si j'ai pas de paiement manqué, ni de problème. J'aurais aimé continuer dans la photographie un peu plus, mais j'ai pas assez de temps à cause que je travaille à temps plein. Ici à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ça me coûte à peu près la moitié des taux. Je t'assure que je serais pas capable de rester à San Francisco, puis de rembourser mes prêts étudiants. Et quand j'étais jeune, quand j'avais cet âge-là, quand je prenais cette décision-là, j'ai pas vraiment su comment grave que c'était, ce montant d'argent. Oui, je le regrette. Je trouve que c'est vraiment difficile. Je trouve que ça va affecter pour le reste de ma vie, même après que j'ai fini de payer. Je vais peut-être jamais être capable de m'acheter une maison. C'est l'âge que j'aimerais être capable d'explorer ma vie, de peut-être voyager, de faire beaucoup d'affaires pendant que je suis jeune, mais c'est là que j'ai le plus de misère financièrement. C'est très difficile pour moi.
Christophe de Roubaix, voilà, quand on consacre la moitié de son salaire, et encore, hein, elle est diplômée, elle n'est pas trop mal payée, quand on consacre la moitié de son salaire à rembourser une dette étudiante, pendant ce temps, on ne peut pas rêver de s'acheter une maison, par exemple.
On ne peut pas rêver de s'acheter une maison, on ne peut pas rêver d'habiter San Francisco, ce qu'elle raconte. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi, en raison de cette dette, beaucoup de jeunes salariés quittent les grandes métropoles, San Francisco, Chicago, Los Angeles, pour aller dans des villes secondaires. Parce qu'en plus, si vous prenez les salaires moyens d'un millénial aujourd'hui, il est un peu supérieur en dollars constants à ce qu'il était dans les années 70. Sauf que, un, il y a la charge de la dette étudiante, dont on vient de parler, il y a l'alourdissement des loyers et du prix de l'immobilier qui rend aujourd'hui se loger à New York est devenu absolument démentiel. Et
les frais de santé. Mais pas que New York, San Francisco, Los Angeles d'ailleurs, hein, des villes moins connues qui sont relativement chères aujourd'hui.
Je suis toujours toutes les grandes métropoles, mais y compris ce qu'on appelle les college towns, les villes universitaires comme Madison, comme Chapel Hill en Caroline du Nord. Les coûts de l'immobilier ont explosé en 20-30 ans. Vous rajoutez l'alourdissement des frais de santé aussi, ça qui concerne l'ensemble de la population, mais qui impacte aussi les millennials. Et finalement, ce salaire, vous affichez un salaire qui est de 4000 dollars par mois, et à la fin ça vous suffit pas pour vivre dignement simplement.
Le SMIC à 15 dollars pour 90 millions d'habitants, est-ce qu'on le doit aux millennials? C'était assez récent. Hein.
On le doit en partie aux millennials. Alors on le doit pas exclusivement qu'aux millennials, mais dans les donc c'est une lutte qui est partie des fast-foods de New York en 2012, puis qui a trouvé son chemin législatif d'abord dans la ville de Seattle, puis en l'État de Californie, État de New York, et aujourd'hui d'une dizaine d'États. Et maintenant on est à 100 millions d'Américains. Et les premières grèves ont été menées dans les fast-foods avec beaucoup d'employés précarisés, beaucoup de femmes notamment, jeunes. Et, en général, seuls et isolés. Donc les millénials ont constitué, là aussi, alors ils étaient encadrés par des militants syndicaux et politiques aguerris, qui n'étaient pas forcément des millénials, hein, mais les millénials ont fait la bascule dans cette lutte.
Christophe de Roubaix, je vous offre pour cette émission consacrée aux millennials, la génération qui secoue l'Amérique, une rappeuse que vous aimez bien et que vous avez mis dans les portraits d'ailleurs qui illustre bien cette génération. Cardi B, elle chante « I Like It ».
I like stunning, I like shining, I like $1 million deals, where's my pen, bitch I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving niggas wrong, I do
what they say, I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Virgo, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. Saw that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this shit like cardio. Diamond district in the chain.
Chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que per pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.
Cardi B, I like it. Elle a 26 ans, cette rappeuse que vous avez inclus dans vos portraits de millennials, Christophe de Roubaix. Millennials, la génération qui secoue l'Amérique.
Oui, je ne connaissais pas Cardi B jusqu'il y a peu de temps, et puis ce sont mes filles, une milléniole et une post-milléniole, qui m'ont parlé d'elle. Donc j'ai écouté et je me suis dit, mais bien sûr, mais c'est ça. Voilà, le métissage dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi du métissage culturel, ou pour reprendre la formule que j'aime beaucoup d'Edouard Glissant, la créolisation du monde. C'est ça, on est là entre la salsa, entre du rap. Elle-même, donc à 26 ans, vient du Bronx. Elle a fait différents métiers, dont stripteaseuse. Elle a été une femme battue, elle s'est émancipée. Aujourd'hui, elle vend des millions d'albums. Elle pourrait se retirer sur son aventin de succès en disant bon, voilà, moi je touche mon pognon. Et elle continue à s'engager, d'abord contre Trump et sa volonté de faire un.
Ouais, elle a tweeté en 2019, là, quand il y avait le shutdown à cause de l'échec de l'accord sur le budget fédéral. C'était le moment où Donald Trump voulait construire le mur à la frontière avec le Mexique. Et elle a lâché un tweet, notre pays vit un enfer en ce moment, tout ça pour un putain de mur.
Voilà.
Bon, elle cache pas son engagement pour Bernie Sanders.
Pour Bernie Sanders en plus. Et donc là, tout ça est assez caractéristique d'une frange importante de cette génération qui s'implique politiquement dans tous les domaines.
La millennials la plus connue à l'extérieur des États-Unis, c'est Alexandra Ocasio-Cortez, que vous avez d'ailleurs mis, qui est très belle en plus, sur la couverture de votre livre. Elle a 29 ans, peut-être 30 maintenant, je ne sais plus.
Elle va faire 30 ans en novembre.
Plus jeune femme jamais élue au Congrès des États-Unis. Elle est élue à New York, en plein bastion démocrate. Là aussi, c'est quand même une milléniale très à gauche.
Elle est très à gauche parce qu'elle se décrit elle-même comme étant socialiste. Alors, il y a un débat sur la définition du socialisme qui est la sienne. Est-ce que ça renvoie à la social-démocratie ? Bon, bref, peu importe. En tout cas, elle est elle aussi très représentative. D'ailleurs, c'est une copine de Cardi B. Elle est très représentative de cette nouvelle génération, de son émergence politique. C'est-à-dire
origine portoricaine.
Portoricaine, elle a fait des études. Et puis, son père est mort, elle a dû bosser. Elle était barmaid. Elle a défié un baron du parti démocrate, qui était élu sans contestation depuis 20 ans. Elle a mené une campagne de terrain. On le voit d'ailleurs dans Cap sur le Congrès, un documentaire qui est passé sur Netflix. Et puis, elle a soutenu Bernie Sanders. Et puis, elle gagne sa primaire. Elle est ensuite élue députée. Et puis, une fois élue députée, elle se considère pas comme une petite nouvelle qui doit rester dans son coin, mais elle pèse politiquement sur tous les sujets. Et je dis elle est représentative parce qu'elle n'est pas, je ne crois pas que, bien qu'étant socialiste et de New York, elle soit à la marge de l'évolution de la société américaine. Je pense qu'au contraire, elle est en plein cœur. Et un sondage que je cite montre que 46% des millennials préféreraient vivre dans une société socialiste que dans une société capitaliste. Donc elle dit ça aussi. Elle impulse ça et elle dit ça aussi.
Donc pas une milléniale à la marge. Il y a d'autres personnalités qui vous ont frappé dans cette génération ?
Oui, il y a le, bon, il y a Cardi B, il y a Colin Kaepernick, le quarterback. Le quarterback de l'équipe de San Francisco, qui pendant l'hymne national mettait un genou à terre en protestation des jeunes américains, enfin pas que des jeunes d'ailleurs, beaucoup de jeunes aussi noirs américains tués par la police, et qui a finalement été d'une certaine façon viré de la ligue. Il y a un autre millénial pour faire dans la diversité qui s'appelle Fabian Van Hauske. Alors il a un nom de général prussien, mais il est d'origine mexicaine et il tient un restaurant avec un autre millénial qui s'appelle Jeremy Aston, qui lui a un nom de trappeur mais qui est d'origine asiatique. C'est ça un peu l'Amérique, c'est les codes identitaires d'hier sont en train d'éclater. Et ils ont un restaurant qui s'appelle Contra, qui a une étoile Michelin, où ils mangeaient récemment à mon dernier passage à New York, parce que je voulais découvrir ça, et où on mange de la viande Angus avec une sauce au vin jaune, et voilà. Et la cuisine monde, c'est aussi cette génération milléniale.
Ouais. Alors, la génération la plus importante sur le plan démographique, on le disait, 35% de la population active, donc qui intéresse forcément tout le business, tout le monde veut leur vendre quelque chose à ces millennials, une génération qui est pourtant quand même loin d'être homogène, selon David Allison, qui est expert en habitudes de consommation. Charlie Dupuis l'a interrogé.
C'est la plus grande erreur que nous faisons dans le monde de l'entreprise partout sur la planète. Quand on commence à discuter autour d'une campagne de pub, d'un nouveau produit ou d'un nouveau service qu'on veut vendre, on s'assoit et on se demande, tiens, qui sera notre cible? Et puis on commence à utiliser des catégories démographiques comme les millennials. On se dit, allez, on va faire ça pour les millennials. Alors, que savons-nous des millennials? Parce qu'ils sont nés au même moment, on va dire qu'ils vont pouvoir trouver ce produit amusant. Ou alors, au contraire, qu'ils ne vont pas l'aimer, que cela ne va pas les faire rire. On va se dire, c'est ça qu'ils pensent des voitures, c'est ça qu'ils pensent des hôtels. Mais franchement, qu'est-ce qui nous fait penser que le fait d'être né au même moment peut les rapprocher? C'est comme si on... je sais pas comment vous allez traduire ça en français, c'est comme si on faisait de l'astrologie du business. Oh, vous êtes né ce jour-là, ça veut dire que vous devez aimer le bleu et que ça, oh bah, vous le détestez. Si vous allez sur Wikipédia, vous réaliserez que vous partagez la même date d'anniversaire que près de 18 millions d'autres personnes dans le monde. Et puis un autre exemple, on va aussi dire, les millennials adorent manger des avocados toast. Vous savez, ces toasts recouverts d'avocats. Mais c'est ridicule. Certains aiment, d'autres détestent. Il y a aussi tous ceux qui ne savent même pas ce que c'est, qui n'ont jamais été dans la même pièce qu'un avocado toast. Tout ce qu'on sait des millennials, c'est qu'ils ont à peu près le même âge. Tout le reste, ce ne sont que des hypothèses.
Vous voulez aussi mettre à mal d'autres stéréotypes sur les millennials, et notamment cette idée qui voudrait qu'ils aient peur de s'engager.
On a un certain nombre de préjugés sur toutes les tranches d'âge. On pense par exemple, oui, que les millennials ont une phobie de l'engagement. Je pense que cette peur concerne plein de gens, de tout âge. Donc cette idée n'a pas de sens. Et nous avons des statistiques pour le prouver. Avec mon cabinet, nous avons mené 500 000 études à travers le monde en regroupant une base de données. Et au sein de cette catégorie des millennials, on retrouve des attitudes différentes à l'égard de questions comme l'engagement, la technologie, les relations ou l'amour. Et donc, si on veut dire que les millennials n'aiment pas s'engager, être liés à quoi que ce soit dans la vie, on a raison dans seulement 15% des cas. Mais pour les 85% restants, ce n'est pas vrai. Ils seront plutôt à l'aise avec cette idée d'engagement. Dans nos enquêtes, nous avons mesuré 410 indicateurs différents liés à des valeurs comme la confiance, l'amour, le sexe, l'argent, l'endettement. Et les millennials, sur toutes ces questions, ne partagent pas le même avis que dans 15% des cas en moyenne. Le reste du temps, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et puis le plus étonnant avec ce chiffre, c'est quand on le compare à un autre. Figurez-vous que, quel que soit notre âge, on partage le même avis que les autres dans 8% des cas sur ces valeurs que nous avons étudiées. Simplement parce que nous sommes humains. Donc les millennials sont seulement un petit peu plus d'accord entre eux dans 7% des cas.
Donc en fait, ce que vous dites, c'est que la plupart des marques se trompent en fait quand elles ciblent les millennials comme une catégorie entière.
Oh oui, s'il vous plaît, il faut vraiment qu'on arrête tous d'être obsédés par les millennials. Et vous connaissez la nouvelle tendance qui émerge? Je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux. On commence à faire la même chose avec la génération suivante. La génération Z regroupe en ceux qui sont nés après les années 2000. On dit, la génération Z aime ci, aime ça, elle déteste ça. J'espère qu'on ne va pas refaire la même erreur, car on perd tellement d'argent en utilisant ce système démodé basé sur la démographie pour comprendre notre public. Pour moi, la seule façon de cerner nos cibles, c'est de s'intéresser aux valeurs qui comptent pour elles. Et si on connaît ça, alors là, on a du pouvoir, quelle que soit la tranche d'âge.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Christophe de Roubaix, de cette analyse d'un spécialiste de la consommation?
Voilà, j'en pense que c'est un spécialiste de la consommation, ce que je ne suis pas. Donc moi, j'ai essayé de regarder. Non, il y a plusieurs points avec lesquels je suis en désaccord avec lui. Il y a un point, alors, sur la question de la génération, il faut être clair. Quand je parle des millennials, évidemment, je ne dis pas que 75 millions de millennials pensent la même chose, votent la même chose, ont les mêmes attitudes. Je parle de la génération dans sa globalité, qui dépasse simplement la totalité de ses composantes. Je prends l'exemple en introduction de mai 68. Tout le monde sait que mai 68 a été déclenché par la jeunesse française étudiante. Tous les étudiants français n'étaient pas dans la rue, ou n'ont pas bloqué le quartier latin ou la fac de Nanterre. Ensuite, je suis en désaccord avec lui sur l'idée, parce que nous sommes nés au même moment, nous devrions penser la même chose. Pas forcément, mais parce que nous sommes nés au même moment, nous avons la même expérience politique. Quelle est l'expérience politique de cette génération? On l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est la crise de 2008. Et c'est surtout une génération qui est post-guerre froide. Je veux dire, Alexandria Ocasio-Cortez, elle avait 8 ans quand le mur est tombé. Le mur de Berlin est tombé. Voilà. Donc elle, tout le discours de guerre froide, ça lui échappe totalement, comme à l'ensemble des millennials. Autrement, on ne pourrait pas comprendre que ces millennials se déclarent ou se définissent comme socialistes ou veulent vivre dans une société socialiste. Pour eux, ça ne veut rien dire. Le socialisme ne renvoie pas au soviétisme et à la dictature.
Par exemple, si on prend le combat contre les armes à feu, on a vu que ces derniers temps, les lycéens, donc vraiment la génération post-millénial, c'est plus jeune, sont vraiment montés. On se sont lancés dans un combat contre les armes à feu. On dit ça suffit, on n'en peut plus, parce que c'est vrai que les tueries ont souvent lieu dans des lycées. Les millénials. Est-ce qu'ils sont tellement que ça, montés en première ligne dans le combat contre les armes à feu, après les différentes tueries dans les lycées?
Oui, on l'a vu après la tuerie de Parkland en 2017, hein, notamment avec en Floride, oui, et avec cette jeune. Enfin, il y a plusieurs lycéens qui ont lancé.
Emma Gonzalez.
Les marches pour nos vies, et Emma Gonzalez, hein, donc une post-milléniale, mais peu importe. Voilà. Et elle a lancé un mouvement qui continue pour demander la régulation des armes à feu. Donc c'est une jeunesse, encore une fois, c'est pas les 75 millions, mais on retrouve cette jeunesse sur le front.
Sur le changement climatique, par contre, là c'est beaucoup plus net.
Ah bah oui, c'est clair. C'est clair.
C'est une génération qui se retrouve quand même avec un vrai consensus sur le changement climatique, les mesures à prendre, la protection de la planète.
Vous prenez toutes les... C'est pour ça que je diverge avec le spécialiste de la consommation dont j'ai oublié le prénom. C'est que vous prenez toutes les grandes enquêtes d'opinion, et ça compte quand même les enquêtes d'opinion, c'est-à-dire ce que les gens pensent sur tous les grands sujets, y compris ceux-là. La pyramide des âges est une pyramide des pensées, c'est-à-dire que plus on est jeune, plus on pense que le changement climatique est une réalité causée par l'activité humaine et que ça doit être adressé par le gouvernement. On pense que les armes doivent être régulées, que le port d'armes doit être régulé, et on en porte moins soi-même. On pense, on croit moins en Dieu, on croit plus en l'altérité et à l'apport à l'immigration. Voilà. Donc ça compte.
Vous l'idéalisez quand même un peu, cette génération. On a l'impression que vous la trouvez particulièrement sympathique.
Je la trouve particulièrement nouvelle. C'est peut-être ce qui me la rend sympathique. Alors oui, je me sens sûrement plus proche de jeunes pour qui l'autre n'est pas un ennemi, pour qui il faut s'investir dans la société. Plus de sympathie pour ces jeunes-là.
Vous êtes journaliste dans un journal clairement de gauche, l'Humanité. Oui. Donc forcément, vous avez aussi envie de croire à une rupture dans l'Amérique post-capitalisme.
Alors... d'abord, cette rupture, je ne sais pas si j'ai envie d'y croire ou pas, mais d'abord, au départ, je n'y ai pas cru, parce que quand Barack Obama a été élu, toute l'année qui a précédé, j'ai dit à mes collègues que Obama ne gagnerait jamais la primaire démocrate. Donc je me suis trompé, et à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as loupé? Donc j'ai recommencé le travail, et j'ai vu à ce moment-là que les millennials avait permis sa victoire lors des primaires, parce que les jeunes ont voté pour lui, se sont investis. Et en 2008, donc lors de sa première élection, 66% des millennials qui ont voté pour Obama. Et je ne pense pas l'idéaliser, puisque je dis, je ne sais plus en conclusion, qu'on est encore loin du compte en termes de participation électorale, puisque le taux de participation au présidentiel est de 45% pour les millennials contre 50-55% pour la population. Donc il y a encore une majorité de millennials aujourd'hui qui ne vont pas voter, qui sont dans une attitude de défiance vis-à-vis de la représentation politique.
En tout cas, ils n'ont pas fait gagner Hillary Clinton, c'est sûr, on y reviendra. Alors est-ce qu'on retrouve cette rupture générationnelle que vous avez bien décrit sur d'autres continents? On va regarder ce qui se passe en Afrique, où les moins de 25 ans représentent près de 64% de la population, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Dans quelques instants, on donne la parole à Sobel Ngom, qui sera à Dakar.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
+5 heading Kanye West off the tip of Argentina. Better than drowning engine, ain't got no sin to blame instead of my reflection. So I dreamt, I packed it all like Anderson to end up where it all began. I was going up the coast in a minivan that broke, like my voice when I told you I was leaving. Packed my bag up, sick of home, never homesick down the road. In my room by the moon with no ceiling. What a view from my apartment. No more homies on the block line. On the corner like a stoplight. I'm a ghost, they never noticed. Never showed up for the show biz. Took it back at the beginning, when I knew when I was singing. Yeah. I was going up the coast in a minivan that broke, like my voice when I told you I was leaving. Packed my bag up, sick of home. Never homesick down the road. In my room by the moon with no ceiling.
France, il est canadien, Going Up the Coast. On est en direct avec vous, Christopher de Roubaix. On parle de cette génération qui secoue l'Amérique, les millennials, donc les moins de 35 ans qui sont nés au début des années 80, 81, jusqu'en 96. Après, c'est fini, vous n'êtes plus un millennials. Nous avons envie d'avoir le point de vue d'un jeune sur le continent africain. Bonjour Sobel Ngom.
Bonjour Emmanuel.
D'ailleurs, êtes-vous encore vraiment jeune? 28 ans, c'est bien ça?
29 maintenant.
Fondateur de l'ONG Social Change Factory, qui se positionne sur plusieurs pays du continent africain comme une initiative de jeunes leaders sur l'autonomisation des jeunes, sur la participation citoyenne, sur l'accès à l'emploi. Vous produisez notamment des compétitions de jeunes, la compétition qui s'appelle Voix des Jeunes, qui est une compétition télévisée pour trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique et qui est diffusée dans 6 pays d'Afrique. Et c'est pour ça que j'avais envie que vous participiez à l'émission, parce que est-ce que sur le continent africain, on a entendu à quel point cette génération américaine de jeunes était une génération en rupture avec tout ce que l'Amérique avait vu, notamment sur des points de vue politiques aussi. Est-ce que la jeunesse africaine continue d'inquiéter sur le continent ?
Alors, inquiéter, probablement oui, parce que démographiquement, comme vous l'avez dit, les moins de 25 ans représentent 64% de la population du continent. Donc ça veut dire que Il faut trouver des solutions extrêmement rapides pour leur éducation, pour leur insertion socio-professionnelle et pour leur autonomisation de façon générale, ce qui impose aux États des investissements extrêmement forts et intelligents dans un délai très court, parce que la croissance démographique ne permet pas de perdre du temps. Oui, je pense qu'ils inquiètent, mais je pense qu'ils sont aussi en train de se donner une place dans la société, de par le contexte hein, qui nous entoure, l'accès au savoir, à l'Internet, aux médias et aux informations, qui, quelque part, suscitent fortement leur indignation sur beaucoup de questions, sur des questions, comme on l'a vu récemment, des industries extractives, notamment du pétrole, sur des questions de justice, sur des questions de démocratie. Parce que vous savez, il y a quand même, dans certains pays africains, des jeunes de 30 ans, donc ils sont nés pendant la génération des millennials, qui n'ont connu qu'un seul régime politique. Du coup, je dis...
Sobel Ngom, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous? J'ai l'impression que la ligne a coupé. C'est fort dommage. On était en train de parler de cette génération. Ah, ça y est, on vous a retrouvé, Sobel. Vous êtes à l'antenne.
Ok. Non, je disais que cette génération est inquiétante dans une certaine mesure parce qu'il faut lui trouver des solutions très rapidement, mais dans une autre mesure, elle est vue comme une opportunité en tant que force, en tant que main-d'œuvre, en tant qu'énergie, en tant que créativité pour permettre à l'Afrique de faire sa transition. Je disais que malheureusement, les inégalités sont si fortes que dans certains pays, certains jeunes de moins de 30 n'auront connu qu'un seul régime politique, quand d'autres jeunes du continent en ont connu plusieurs. Donc, cette génération n'est pas la même dans sa pensée, dans sa façon de faire et dans sa façon de voir le monde. Il y a aussi plusieurs tendances. Ceux qui s'universalisent dans leurs valeurs, dans leur façon de faire et dans leurs normes sociales. Ceux qui s'ancrent davantage dans les traditions ou qui se tournent vers la religion pour pouvoir apporter une réponse à leur détresse. Ou ceux qui sont un petit peu entre les deux et qui surfent sur ces valeurs traditionnelles, ces normes religieuses et cette universalisation à laquelle ils ont envie d'appartenir parce qu'ils sont informés, ils voient la technologie évoluer, ils voient les opportunités et ils voient que tout est possible. Et donc je pense que si le continent américain est en train de perdre son American Dream, peut-être que le continent africain est en train de le créer.
Ouais. Et d'ailleurs, ça peut sembler paradoxal parce que si on compare par exemple les États-Unis, où vous nous le disiez, Christophe de Roubaix, on a plus de la moitié des millennials qui sont passés par l'université, pas forcément très diplômés, mais qui ont, à un moment donné, qui sont passés par l'université. Si on regarde un pays comme le Sénégal, c'est 15% d'une classe d'âge seulement, hein, et pas 50% qui passent par l'université. Il y a plusieurs études qui disent que les jeunes sont désabusés quant à la politique en Afrique, mais assez optimistes sur leur avenir personnel. C'est le cas du Sénégal.
Oui, absolument. Je pense que la question politique est devenue tellement accessible et toutes les informations circulant ont créé une désillusion sur le rôle des politiques, leur pouvoir de changer les choses, leur intégrité et leur sincérité dans leurs actions, et qui crée un souffle quelque part d'autodétermination, et ce qui oblige les jeunes à entreprendre, à se créer des emplois. Et quelque part, il y a des offres qui se présentent sur le marché, donc qui permettent à des jeunes qui, même s'ils n'ont pas fait de grandes études, mais ont des bons projets, de pouvoir trouver des petits financements. Je pense qu'on est dans le début de quelque chose d'intéressant qui va pouvoir permettre aux jeunes de bénéficier de plus d'opportunités. Et je pense que le rôle que ces jeunes-là jouent aujourd'hui, et ils l'ont joué, on l'a vu dans ces 10 dernières années, dans des grosses mobilisations citoyennes de jeunes qui ont même favorisé des transitions politiques dans certains pays, je pense que progressivement, les jeunes se structurent pour compter davantage de façon plus institutionnelle et structurelle. Parce qu'il y a un nouveau rationnel auprès des autorités et auprès des institutions internationales, c'est qu'il sera impossible de pouvoir apporter des solutions aux 65% sans les intégrer et sans les impliquer dans ces solutions, soit dans la conception comme dans l'implémentation.
Ouais, c'est clair. Alors vous le disiez, chez vous, les jeunes pensent que tout est possible, contrairement à l'American Dream. Est-ce que c'est la mort avec les millennials de l'American Dream? Est-ce que les jeunes américains ne croient plus aux rêves américains, Christophe de Roubaix?
Alors, il faut d'abord se pencher deux secondes sur ce qu'on appelle le rêve américain. Pour moi, la définition que j'en donne, c'est le rêve américain n'est pas un rêve d'égalité en soi, c'est un rêve de mobilité sociale. Voilà. Donc on peut arriver dans ce pays comme immigré ou enfant d'immigré, partir du bas de l'échelle et grimper les échelons un à un, voire 10 à 10.
Si on travaille dur,
si on travaille,
c'est la valeur centrale.
Si on travaille dur, sauf que ce n'est plus vrai. Toutes les enquêtes le montrent depuis 2012. D'ailleurs, c'est un conseiller économique du président Obama qui a rendu publique cette donnée. Les États-Unis sont la société la moins mobile socialement des sociétés dites occidentales, c'est-à-dire nées de la révolution industrielle. Il n'y a plus de mobilité sociale. Il y a très peu de mobilité sociale. C'est-à-dire que les inégalités non seulement s'accroissent, mais se transmettent de génération en génération. Donc, d'une certaine façon...
La dette étudiante, d'ailleurs, qui se transmet aux enfants.
Si ouais. Nulle part, qui va se transmettre aussi de génération en génération. Oui, oui. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est en tout cas la mort, je ne sais pas, en tout cas le rêve américain est bien agonisant.
Sobelngom, vous serez dans quelques jours à New York, me semble-t-il.
Oui, effectivement.
Pourquoi faire ?
Alors, vous savez, l'an dernier, il a été créé un nouveau partenariat mondial pour la jeunesse, justement, qui s'appelle Génération sans limite. Generation Unlimited, qui est un partenariat qui réunit des acteurs de tous les secteurs, public, privé, civil, des grands leaders d'industrie du monde, qui ont décidé de se mettre ensemble pour mettre en place un agenda. Un agenda sur plusieurs années pour principalement lutter pour l'inégalité des chances en termes d'éducation, pour les adolescents surtout, et de professionnalisation, mais également pour leur accès à l'emploi. Donc travailler sur des opportunités pour développer leur employabilité, leurs compétences et puis leurs ressources pour pouvoir entreprendre. Et donc cette initiative a son conseil annuel pendant l'Assemblée générale des Nations Unies et des décisions s'y prennent sur notre agenda.
Voilà. Et vous avez envie de faire entendre la voix des jeunes. Merci beaucoup Sobelngom d'avoir été en ligne avec nous de l'ONG Social Change Factory. Vous pouvez aussi aller voir sur internet les émissions de télévision, les compétitions pour les jeunes qui se battent pour trouver des solutions pour le continent africain. Ça s'appelle Voix des jeunes. Christophe de Roubaix, on a un message de Gervais qui a été posté de République démocratique du Congo qui dit « Les millennials américains vont certainement bien changer leur pays, mais plus le monde. Les États-Unis ne sont plus le centre du monde et ils savent qu'ils doivent faire avec les autres. » Vous pensez que les jeunes américains de moins de 35 ans aujourd'hui, effectivement...
Oui, il y a un rapport au monde qui est différent. Il y a un rapport au monde qui est différent, d'abord parce que démographiquement, la population américaine est cette génération des milléniaux, c'est une génération mondialisée. On en parlait tout à l'heure, la part des latinos, des asiatiques. Et puis le rapport est complètement différent. Là aussi, vous regardez les enquêtes d'opinion. Il faut toujours regarder les enquêtes d'opinion. Ce que les gens pensent, c'est quand même un peu la base de tout. Et autant la génération des plus de 50 ans pense que les États-Unis sont un pays exceptionnel, hein, le fameux exceptionnalisme américain, autant la jeune génération pense que leur pays est un pays puissant et bien, mais pas plus que d'autres. Il y a une sorte de banalisation, à la fois une banalisation de la puissance américaine et puis de...
Donc le America Great Again, ça veut dire ça a pas de sens pour eux.
Pour eux, ça a pas de sens. Ça a du sens pour les électeurs de Donald Trump qui sont majoritairement des plus de 50 ans, mais pas pour les jeunes.
Ouais. Alors si on s'en tient à votre démonstration, si on applique les calculs démographiques et générationnels, Trump serait battu par un candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre 2020.
Alors, je ne vais pas faire de pronostic. De toute façon, j'en ai jamais fait.
Plus personne ne voudra en faire.
Et plus personne ne voudra en faire. Non, ce que je sais, c'est qu'on a inventé il y a deux siècles un instrument de mesure qui fonctionne assez bien, qui s'appelle le suffrage universel. Et que si vous prenez cette question uniquement du suffrage universel, Donald Trump a perdu l'élection présidentielle avec 3 millions de voix d'écart. Il a perdu les élections de mi-mandat de 2018. C'est passé un peu inaperçu avec 10 millions de voix. Les démocrates ont 10 millions de voix de plus, et que depuis, on parle de génération et d'expérience de cycle, depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis 25 ans, c'est-à-dire en gros une bonne grosse génération, les républicains ont remporté le suffrage universel à une reprise lors des 7 élections présidentielles. Voilà. Donc ce que je sais, c'est que le projet politique de Donald Trump est un projet politique minoritaire aux États-Unis. Maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas l'emporter, surtout avec le système du collège électoral qui tord énormément les pronostics et les hypothèses.
Alors, qui les millénials sont susceptibles de pousser du côté des démocrates? Parce que pour que Donald Trump soit réellement battu, il faudrait qu'il y ait un démocrate qui gagne. C'est étonnant quand on voit là dans la course des primaires démocrates, Joe Biden 76 ans, Bernie Sanders presque 78 ans, Elizabeth Warren 70 ans. Ça semble assez...
Il y a un hiatus entre, oui, le renouvellement, truc, là, hein. entre le renouvellement générationnel et la poussée de la société par le bas des millennials et l'incarnation politique. C'est un hiatus que je n'arrive pas forcément à expliquer totalement. Si ce n'est que pour les millennials, il y a aussi une dimension importante, c'est que plus que la génération, enfin ceux qui sont investis en politique et qui votent, plus que la question de la génération, c'est la question du contenu qui compte. Et on a vu lors des primaires de 2016 que les moins de 30 ans avaient massivement voté Bernie Sanders, y compris les jeunes femmes, en disant le vrai féminisme, c'est Bernie Sanders qui le porte et pas forcément Hillary Clinton. Donc, alors aujourd'hui, on est 3 ans plus tard, et en effet, est-ce que Bernie Sanders va continuer à maintenir son avantage parmi les millennials? Est-ce que Elizabeth Warren va... Enfin, elle a aussi 70 ans. En tout cas, le rajeunissement est effectif au Congrès, on le voit avec Alexandria Ocasio-Cortez, et pas seulement elle.
Ouais. L'abstention, c'est une tentation des millennials.
Oui, c'est une tentation de...
Vous dites dans votre livre qu'en fait, aujourd'hui, les moins de 35 ans aux États-Unis, on ne peut pas généraliser, mais de plus en plus, ces jeunes-là ne veulent plus de cette politique binaire, les démocrates, les républicains.
Oui, ils se définissent comme des indépendants. Mais indépendant, Bernie Sanders est un indépendant. Indépendant, ça ne veut pas dire centriste ou neutre. Ça veut dire nous voulons sortir de ce duopole républicain-démocrate qui, globalement, a mené, disent-ils, les mêmes politiques dans les années 80, 90 jusqu'aux années 2000. Donc nous sommes des indépendants politiques, mais au moment où il faut voter, vous avez souvent que deux choix, démocrate ou républicain. Et quand on fait la répartition, on a un rapport de force. C'est le politologue Rui Teixeira qui le dit, qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des États-Unis en termes de génération. C'est-à-dire 66% des millennials se disent au dernier recours on vote démocrate, et encore plus chez les femmes, 70%. Donc la question, c'est celle de la mobilisation politique et de la participation, comme toujours. On a noté lors des midterms de 2018 une plus forte participation à ces élections de midterm que lors des précédentes midterms, avec une augmentation du taux de participation des jeunes, des millennials, beaucoup plus importante. L'une des clés du scrutin, c'est celle-là, la mobilisation. Et lors des primaires et lors du scrutin général de novembre, ça va être évidemment la mobilisation des millennials.
Christophe de Roubaix, vous avez beaucoup été sur le terrain pour ce livre. Dans vos rencontres, alors bien sûr, vous avez rencontré des personnes connues, des chefs cuisiniers comme des jeunes qui sont investis en politique, mais aussi des anonymes. Comment vous les avez ressenti? Est-ce qu'il y a des histoires qui ont gravé votre mémoire et qui, pour vous, vraiment vous ont permis de comprendre ce phénomène?
C'est facile de bosser aux États-Unis, en fait. Même en tant que journaliste de l'UMA, tout le monde vous parle, donc aussi bien les responsables que les jeunes. Et donc, quand vous allez dans les universités, partout, tout le monde vous parle. Et il y a vraiment un moment qui m'a marqué, c'est le début 2016, quand je suis allé couvrir la première primaire du cycle dans le New Hampshire, où j'ai parlé avec un certain nombre de jeunes, notamment, parce que j'avais déjà un peu ce focus millennials, et où beaucoup m'expliquaient qu'ils avaient été derrière Barack Obama, qu'ils avaient été déçus par Barack Obama. Bernie Sanders n'était pas encore dans les sondages, il commençait à monter, mais il n'était pas encore tout à fait là où il a fini. Et ils se sont rendus compte que ça nécessitait plus que Barack Obama pour changer la politique. Donc ça m'a déjà donné un petit truc et de l'évolution. Et puis après, la même année, en 2016 aussi, en Caroline du Nord, j'avais fait un reportage sur un campus auquel j'aurais dû donner un peu plus de crédit, à vrai dire. Je le cite, ce reportage, mais où les jeunes me disaient « Nous n'irons pas voter Hillary Clinton. » Et nous voterons pour le vert ou pour le libertarien, mais nous sommes progressistes, nous sommes de gauche, elle ne l'est pas, donc nous n'irons pas voter pour elle. Et moi, j'ai eu tendance un peu à reproduire les schémas avant en disant finalement, contre Trump, ils iront voter pour Hillary Clinton. Et il se trouve qu'ils ne sont pas allés voter pour Hillary Clinton, et ce qui explique en partie sa défaite dans un certain nombre d'États.
Ah, c'est à savoir ce qui se passera en 2020, en novembre 2020. Merci à vous, Christophe de Roubaix.
Merci à vous.
Vous publiez Millennials, la génération qui secoue l'Amérique, aux éditions de l'Atelier. Merci aussi à Sobel Ngom de l'ONG Social Change Factory d'avoir été en ligne avec nous de Dakar. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubras. Demain, 7 milliards de voisins. On parle éducation comme chaque vendredi. On parlera des langues locales en Afrique. Comment les intégrer enfin, réellement, dans les cursus scolaires? Et est-ce un remède miracle pour améliorer les apprentissages? Bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.